Chers auditeurs et auditrices de Radio FM+, je suis très heureuse de vous rencontrer sur 91 FM pour aller à la rencontre d'une femme. Et puisque nous sommes dans ce temps qui nous prépare à Noël, je vous propose de rencontrer Marie. Marie, la tradition en a fait une femme un peu exceptionnelle, mais nous allons voir que finalement, cette tradition passe souvent à côté de ce qu'est vraiment Marie et de ce qu'elle représente. Alors on la présente comme vierge, comme symbole de pureté, une sorte d'ingénue, le modèle de la croyante, mais on oublie bien trop souvent sa profonde humanité. Marie, eh bien, elle est présente dans nos bibles, mais finalement pas tant que ça. 19 occurrences, particulièrement dans les évangiles de Matthieu et de Luc, puisque ce sont les évangiles où on trouve les récits de la naissance de Jésus. Chez Matthieu, on va passer très très vite parce qu'en fait, c'est Joseph qui a toutes les cartes en main chez Matthieu. Et Marie nous est présentée soit comme la fiancée de Joseph ou la mère de Jésus. Mais dans l'évangile de Luc, elle est beaucoup plus participante, je dirais. Souvent, on en a fait quelqu'un qui subissait, mais en réalité, elle est profondément participante. Et puis, on la trouve aussi, et j'y reviendrai tout à fait à la fin, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, où elle n'est pas nommée, on parle de la mère de Jésus, mais pourtant là aussi elle a un rôle essentiel. Je disais qu'elle n'était pas très présente dans nos bibles, 19 occurrences. Étonnamment, elle est très présente dans le Coran, puisqu'il y a 34 occurrences de Marie dans le Coran, bien plus finalement que dans nos évangiles. Donc je vous propose, eh bien, pour commencer, pour aller à la rencontre de Marie, de vous lire les versets, à partir du verset 26 dans l'évangile de Luc au chapitre 1, ce récit assez connu, voire très connu, de l'Annonciation. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Comme je vous le disais juste avant de vous lire ce texte, il me semble que la tradition n'a eu de cesse de trahir Marie, comme la présentant comme finalement une jeune fille, très jeune fille, toute jeune fille, qui subissait surtout et qui finalement acceptait parce qu'au début, elle est déjà quelqu'un d'exceptionnel. En fait, rien ne nous dit qu'elle est exceptionnelle. Rien ne nous est dit sur son âge. Bon, comme elle est fiancée, elle est certainement très jeune, en effet. On la présente comme vierge, et c'est surtout là-dessus que, finalement, c'est ce que l'on retient principalement de ce texte, c'est que finalement, la conception de Jésus serait une conception virginale. Alors, je ne vais pas faire un traité de gynécologie, parce que finalement, ce n'est pas le propos, et je pense que ce n'est pas le propos non plus de notre texte. On parle beaucoup de sa virginité parce qu'en effet, finalement, c'est important qu'elle soit très jeune. Et il y a là une confusion au niveau de, comment dire, de la traduction des mots, que ce soit en hébreu ou en grec, puisque ce texte fait référence à un texte d'Ésaïe où on nous dit que la toute jeune fille sera enceinte. Alma. Ça a été traduit par Vierge par la suite, mais en réalité, que ce soit Alma en hébreu et même Parthénos en grec, le mot grec qui est là dans notre texte original, eh bien, ce mot signifie surtout une toute jeune fille, en quelque sorte, une enfant qui n'a pas encore ses règles, pour dire les choses de manière un peu plus crue, en tout cas. Et donc, cette toute jeune fille, eh bien, reçoit cet ange, ce messager de Dieu, ce messager qui vient lui apprendre qu'elle va être enceinte. Alors la virginité de Marie, souvent, nous les protestants, puisque nous sommes sur une radio protestante, la plupart des protestants, même aujourd'hui, pensent que les protestants ne croiraient pas à la virginité de Marie et les catholiques y croiraient. En fait, c'est beaucoup plus complexe, en fait, puisque le texte nous raconte cette conception quand même un peu miraculeuse et nous verrons le sens que nous pouvons lui donner à cette conception. Mais en réalité, ce n'est pas une histoire de virginité de Marie qui sépare les catholiques et les protestants, mais plutôt la conception même de Marie qui est dans le dogme de l'Immaculée Conception qui a 160 ans. Mais intéressons-nous au texte donc. Que signifie cette histoire de virginité? Alors, en réalité, ce texte est plein d'autres choses. Ce texte nous dit, et moi personnellement ça me rejoint, nous dit combien finalement toute naissance est miraculeuse. Parce qu'une naissance, en effet, c'est quelque chose d'exceptionnel, de miraculeux. Pour qu'un enfant puisse arriver, pour être conçu, être arrivé à terme et être accueilli dans notre monde, ça a quelque chose de miraculeux, même si ça nous semble naturel, tant la médecine a pu accompagner cela. Mais à l'époque, c'était encore plus quelque chose de miraculeux. Et puis, en réalité, on voit bien... Qu'est-ce qu'il est dit là, à ce moment-là? Il est dit « l'Esprit Saint va te couvrir ». Je trouve que l'image est très belle. Et ça nous dit que finalement, l'être humain n'est pas un être qui est issu que de la chair et du sang. Ça veut dire que pour être pleinement humain, et là il ne s'agit pas que du Christ, il s'agit de vous, il s'agit de moi, eh bien l'être humain doit recevoir cet esprit, ce souffle divin. L'être humain sans souffle, sans esprit, finalement, est encore du côté de l'animalité. Et ce qui est dit là, ce qui nous est dit, c'est qu'en effet, pour accepter la maternité ou la paternité, il faut recevoir cet esprit. Et d'ailleurs, Joseph le reçoit aussi, cet esprit. Et que finalement, nous sommes pleinement humains qu'une fois que nous avons reçu l'esprit. Il faut se laisser féconder par l'esprit. Et en effet, Marie se laisse féconder par l'esprit. Et c'est ça qui va la transformer, en réalité. Parce qu'au départ, elle est certainement comme vous, elle est comme moi. Et si nous nous laissons féconder par cet esprit, eh bien, en effet, nous pouvons avoir une fécondité très grande. Ensuite, on a fait de cette petite fille quelqu'un qui serait le modèle de la croyante, et puis en gros, bon, c'est tout, enfin, c'est déjà beaucoup. Mais en réalité, Marie est beaucoup plus maligne qu'on pourrait le croire ou le faire croire. Déjà, elle n'accepte pas ce que lui dit l'ange tout de suite comme ça. Donc Marie est quelqu'un qui est profondément ancré dans ses réalités. Elle n'accepte pas cela. L'ange a même besoin de discuter avec elle. Et ensuite, on nous dit à la fin, voici la réponse de Marie qui nous dit, voici, je suis la servante du Seigneur. Voici, je suis la servante du Seigneur. Mais ça, c'est quand même très, très, très intéressant parce que on pense que la servante, c'est moins que rien. Et on va voir dans le texte suivant qu'en fait, il y a ce retournement et que se mettre au service de Dieu, se mettre au service des autres, c'est exactement ce que va faire le Christ. En quelque sorte, elle est précurseur de ce qui va se passer ensuite, de ce fils qu'elle va enfanter. Quand elle dit « je suis la servante du Seigneur », n'est-elle pas là, au contraire, pour nous dire toute sa grandeur? Et tout l'Évangile par la suite, d'ailleurs, nous dira cela, et c'est déjà présent dans l'Ancien Testament, que la mise au service, finalement l'abaissement, c'est ce qui nous grandit le plus. Alors, avant de passer au texte suivant, qui est la rencontre de Marie et Élisabeth, eh bien, je vous propose une petite pause musicale. Donc nous reprenons avec Marie. Emma, nous venons d'entendre quelques pistes pour essayer de comprendre l'Annonciation, mais je pense qu'il garde toujours une part de mystère dans ce texte. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si il y a cette mise en perspective dans ce texte, cette mise en perspective de Marie, et qu'il y a de l'indicible en réalité. Comme souvent dans la Bible, le moment crucial, nous ne savons pas ce qui se passe. Pas plus que nous ne saurons ce qui se passe au moment de la résurrection. Nous ne savons pas ce qui se passe au moment de la conception. Et ça, les peintres particulièrement au XVe siècle, l'ont bien senti. Et c'est d'ailleurs à travers les tableaux qui représentent l'Annonciation que la perspective va être inventée. Mais cette jeune Marie peut être aussi représentée de manière tout à fait différente, plus moderne, et le peintre Otto Dix d'ailleurs l'a représentée comme une toute jeune fille aussi, mais une toute jeune fille quand même un peu perturbée, un peu affolée par ce qui va lui arriver. Et ça, on peut le comprendre. Donc cette toute jeune fille perturbée, affolée, une fois qu'elle se remet de ses émotions, une fois qu'elle a questionné, une fois qu'elle a essayé de comprendre, parce qu'elle réfléchit, cette jeune fille, eh bien, elle va se mettre en route, elle va partir à la rencontre de sa cousine, cette cousine Élisabeth dont on lui a dit que, bien que stérile, elle allait enfanter bientôt. Elle part chez sa cousine, elle arrive chez Élisabeth, sa cousine, et voici que Marie se met à parler, Marie se met presque à chanter, Marie se met à parler, à chanter, et on voit chez elle son âme de poétesse. Et ça, dans la Bible, ce n'est pas rien. Parce que qui sont les poètes? C'est David qui a écrit les psaumes, tout particulièrement. La plupart du temps, ce sont des hommes. Il y a quelques femmes dans l'Ancien Testament qui ont été elles-mêmes poétesses. Il y a Déborah, il y a Anne, la mère du prophète Samuel, qui elle-même était stérile et qui nous montre Marie dans cette lignée de femmes qui ont eu des enfants de manière absolument miraculeuse. Mais comme je le disais, je pense que la naissance est miraculeuse de toute façon. Anne a chanté la louange de Dieu. Et voici ce que Marie nous dit. Toujours dans le premier chapitre de l'évangile de Luc. Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté des regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, et il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier les biens, les affamés, renvoyer les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Marie demeure avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle rentre chez elle. Ce magnifique poème qu'on a appelé le Magnificat, qui a si bien été mis en musique, on voit bien que les artistes s'emparent de ces textes pour nous montrer toute la portée poétique des textes bibliques, que ce soit l'Annonciation avec les peintres, le Magnificat avec les compositeurs. Il y a dans ce texte des enjeux principaux dans cet hymne qui est un psaume mis dans la bouche de cette femme qui est bien plus puissante que ce que l'on a pu nous faire croire. Eh bien, Marie nous dit combien la grâce l'a touchée. Elle le reconnaît, l'ange lui avait dit, mais elle le reconnaît, elle l'accepte. Et combien, aux yeux de Dieu, la valeur de chacun d'entre nous n'a rien de commun avec les valeurs humaines. L'action de Dieu, c'est le renversement. Il se sert, il se manifeste dans la faiblesse. Il se manifestera d'ailleurs jusqu'à la croix dans la faiblesse. Il a fait descendre les puissants de leur trône, nous dit Marie. Élever les âmes, rassasier les affamés, renvoyer à vide les riches. Ce chant, d'ailleurs, je trouve assez exceptionnel, se retrouve dans la bouche de femmes, donc dans la bouche de petits, des humiliés. Et ainsi, Dieu se sert des petites, de celles qui n'ont aucun rôle dans la société à l'époque, pour dire combien, et bien justement, ces petits, ces humiliés sont importants. Le renversement des valeurs est annoncé, je suis la servante, il s'est humilié, lui, il s'humiliera, Chloé sur la pentance. Le Magnificat comme discours sur Dieu, le Magnificat comme poème et non comme dogme. Le poème de Marie nous annonce la délivrance, c'est un chant de délivrance. Le salut de Dieu ne fait pas abstraction des situations concrètes que vivent les humains. Il est essentiel de retourner les situations injustes que la société produit avec son cortège de faibles, de démunis, d'exclus. Le Dieu que chante Marie, le Dieu que Marie magnifie, n'est pas au-dessus de nos réalités socio-économiques. Il s'élève lorsque les humains aussi peuvent se relever. Et Marie, toujours, dans l'évangile de Jean, alors là, elle a un rôle encore différent. Marie, elle est présente dans l'évangile de Jean au début, au chapitre 2, au tout début du ministère de Jésus. Il se rend à un mariage, c'est un épisode bien connu, à Cana, en Galilée, et là, il n'y a plus de vin. Et donc, Jésus va transformer l'eau en vin. Mais Jésus transforme l'eau en vin grâce à sa mère, qui dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dit ». La mère de Jésus, ainsi au début de l'évangile de Jean, croit profondément en son fils. Et puis, on la retrouve à la croix, au pied de la croix, avec le disciple que Jésus aime et avec Marie de Magdala. Elle est là, elle nous montre toute la douleur des mères. Elle porte sur elle la douleur de toutes les mères. Et ça, eh bien, les peintres, les sculpteurs l'ont bien senti aussi, les compositeurs aussi, à travers soit des Pietà, soit des Stabat Mater, toute la douleur des mères. Et là, Marie, pour nous, est quelqu'un qui nous rejoint dans notre humanité. Marie est profondément humaine. Mais je voudrais ne pas terminer sur cette note, mais revenir à cette histoire des noces de Cana, où Marie intervient. Pourtant Jésus, je vous invite à lire le chapitre 2 de l'évangile de Jean, pourtant Jésus l'a en quelque sorte remis à sa place. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il coupe le cordon à ce moment-là et dit « Écoute, qu'est-ce qu'on a de commun entre, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Pourquoi finalement tu m'embêtes là, à ce moment-là ?» Et pourtant, il lui obéit. Et pourtant, il va changer l'eau en vin et faire que la fête puisse continuer. La fête, c'est ce mariage-là, mais la fête, c'est aussi la fête aujourd'hui encore dans notre existence. La fête pour continuer. Marie, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, elle donne naissance à un bébé. Mais ici, Marie, dans notre évangile de Jean, elle met au monde le Christ. C'est grâce à elle que le Christ va pouvoir annoncer sur les routes de Galilée, encore et encore, combien l'amour de Dieu est important pour nous et combien finalement cet amour est bien plus fort que la mort, que cet amour peut vaincre, y compris la croix. Ainsi, Marie, même s'il est assez peu présente, nommée dans nos évangiles. Son rôle est là, il est essentiel. Sans elle, rien ne serait possible. Et cette Marie, surtout, elle réfléchit, elle pense, elle s'interroge, elle se questionne et elle a une foi aussi, qui est une foi réfléchie. Et ça, c'est quelque chose qui me rejoint personnellement parce que la foi, ça peut être quelque chose que l'on reçoit comme ça, comme une grâce, et c'est merveilleux. Mais la foi nous invite justement à nous questionner encore et encore, à nous questionner pour agir comme le fait Marie, en chantant des psaumes et ou alors en nous mettant au service de Dieu et de notre prochain. Nous pouvons nous aussi dire « Je suis la servante de Dieu ». À très bientôt pour une autre rencontre.